Ordon qu'on apprêta Tourine pour son voyage, et il fit ses adieux à sa mère et s'en alla secrètement avec ses deux compagnons. Mais lorsqu'ils engagèrent Tourine à se retourner pour jeter un dernier regard sur la maison de son père, l'angoisse de la séparation le transperça comme une épée, et il s'écria « Morwen, Morwen, quand te reverrai-je » Et debout sur le seuil de la porte, Morwen perçut ce cri que lui renvoyaient les pentes boisées, et elle étreignit le chambranle de la porte jusqu'à s'en déchirer les doigts. Tel fut le premier des chagrins de Tourine. Tôt dans l'année qui suivit le départ de Tourine, Morwen donna naissance à sa fille, et elle la nomma Nienor, ce qui veut dire « le deuil ». Mais Tourine était déjà fort loin lorsqu'elle vit le jour. Long et ardu fut le cheminement de Tourine, car les pouvoirs de Morgoth se déployaient sur les terres. Mais il avait Gethron et Grithnir pour guides, qui avaient été jeunes du temps de Hador, et bien qu'ils fussent désormais âgés, ils avaient gardé toute leur vaillance, et ils connaissaient bien le pays pour avoir souvent parcouru le Beleriand au jour d'autrefois. Ainsi, par la bonne grâce du destin et la vertu de leur courage, ils franchirent les montagnes ombreuses et descendirent dans le val du Sirion pour s'enfoncer dans la forêt de Brethil. Et épuisés et hagards, ils atteignirent enfin les confins du Doriath. Mais là, ils furent déroutés, et dans les labyrinthes de l'arène s'égarèrent et errèrent perdus dans ces bois où nul chemin n'était tracé, jusqu'à ce que leurs vivres fussent épuisés. Et survint le froid hiver du nord, et ils côtoyèrent la mort. Mais d'un poids autrement conséquent était le destin de Tourine. Alors même qu'ils gisaient là dans le désespoir, ils entendirent le son d'un cor. Beleg, l'arc de fer, chassait dans les parages, car il vivait toujours sur les marches du Doriath, le plus illustre forestier de son temps. Il entendit leurs plaintes et alla à eux, et lorsqu'il leur eut donné à manger et à boire, il apprit leur nom et d'où ils venaient, et la stupeur et la pitié l'envahirent. Et il considéra Tourine avec amitié, car il avait la beauté de sa mère et les yeux de son père, et il était robuste et fort. « Quel bienfait attends-tu du roi Thingol ?» demanda Beleg à l'enfant. « Je voudrais être l'un de ses chevaliers et chevaucher contre Morgoth et venger mon père, » dit Tourine. « Et pourquoi pas lorsque les Ents t'auront fortifié ?» dit Beleg. « Car bien que tu sois encore petit, il y a en toi de quoi faire un homme valeureux, le digne fils de Hurin l'Inflexible, si cela se pouvait. » Car le nom de Hurin était tenu en grand honneur dans tous les pays des elfes. Aussi Beleg se fit volontiers le guide des voyageurs, et il les amena à une cabane où ils logeaient avec d'autres chasseurs, et on leur donna l'hospitalité, tandis qu'un messager était dépêché à Menegroth. Et quand la réponse vint, que Thingol et Melian recevraient le fils de Hurin et ceux qui lui faisaient escorte, Beleg les conduisit par des chemins détournés jusqu'au royaume caché. Et Tourine emprunta le grand pont qui enjambait l'Esgalduin, et passa les portes du palais de Thingol. Et de ses yeux d'enfant, il contempla les merveilles de Menegroth que nul homme mortel n'avait jamais entrevues, sauf Beren. Alors Gethron délivra le message de Morwen devant Thingol et Melian. Et Thingol les reçut avec bonté, et fit ployer le genou à Tourine en l'honneur de Hurin, le plus puissant des hommes, et de Beren, son parent. Et tous ceux qui assistaient s'étonnèrent, car cela signifiait que Thingol prenait Tourine pour fils adoptif. Et en ce temps-là, cela ne se faisait pas chez les rois. Et cela ne s'est jamais vu depuis de la part d'un seigneur elfe à l'égard d'un homme. Ordon Thingol lui dit « Ici même, fils de Hurin, sera ta maison, ta vie durant, et on te traitera comme mon fils bien que tu sois un homme. La sagesse te sera départie bien au-delà de ce qu'en jouit homme mortel, et les armes des elfes seront placées entre tes mains. Peut-être viendra le temps où tu recouvreras les domaines de ton père ou Ithlum, mais pour l'instant, demeure ici. » Dans notre amour. Ainsi commença le séjour de Tourine au Doriath. Pendant quelque temps, Grithnir et Gethron, ses protecteurs, restèrent avec lui, malgré leur désir de retourner auprès de leur dame au Dorlomine. Puis l'âge et la maladie eurent raison de Grithnir, et il demeura auprès de Turin jusqu'à sa mort. Mais Gethron s'en alla, et Thingol envoya avec lui une escorte pour le guider et le protéger, et ils étaient porteurs de paroles de Thingol destinées à Morwen. Et ils parvinrent enfin à la maison de Hurin, et lorsque Morwen apprit que Turin avait été reçu avec honneur dans le palais de Thingol, son chagrin en fut allégé. Et les elfes lui remirent aussi de riches présents de la part de Melian, et un message la conviant à revenir avec les gens de Thingol au Doriath. Car Melian était sage et prévoyante, et elle espérait prévenir de la sorte le mal qui avait éclos dans l'esprit de Morgoth. Mais Morwen ne voulut pas quitter sa maison, car son cœur était toujours le même et son orgueil toujours haut placé. De plus, Nienor était encore un bébé au berceau. Aussi elle renvoya les elfes du Doriath avec ses remerciements et leur donna en présent de retour les dernières bricoles d'or qui lui restaient, dissimulant ainsi sa misère. Et elle leur demanda d'apporter à Thingol le home de Hador. Or, Turin guettait sans cesse le retour des messagers de Thingol, et quand ils revinrent sans compagnie, il s'enfuit dans les bois et sanglota, car il savait la teneur du message de Melian et il avait tant espéré la venue de Morwen. Et ce fut le deuxième chagrin de Turin. Lorsque les messagers lui dirent la réponse de Morwen, Melian fut prise de compassion car elle devinait ses pensées, et elle vit que le destin qu'elle pressentait ne se laisserait pas si aisément déjouer. Le home de Hador fut remis entre les mains de Thingol. Ce home était d'acier gris tout ouvragé d'or et s'y trouvait gravé des runes de victoire. Un pouvoir l'habitait qui protégeait quiconque le portait des blessures et de la mort, car l'épée se rompait qui l'effleurait et le trait déviait brusquement qui le frappait. Il avait été fabriqué par Telkar, le forgeron de Nogrod, célèbre pour ses ouvrages. Le home avait une visière, semblable à celle qu'utilisaient les nains dans leur forge pour s'abriter les yeux. Et le visage de qui le portait jetait l'épouvante dans le cœur de qui le contemplait, mais restait, lui, à l'abri de toute flèche et de toute flamme. Sur son cimier se dessinait, tel un défi, la tête dorée de Glaurung, le dragon, car le home avait été confectionné peu après la première sortie du monstre par les portes de Morgoth. Bien souvent, Hador et Galdor, après lui, l'avaient porté au combat. Et les cœurs des soldats du Ithlom s'exaltaient à sa vue lorsqu'ils l'apercevaient, haut dressé dans le feu du combat, et ils criaient « Gloire au dragon du Dorlomin, honte au ver doré d'Angband !» Mais à la vérité, ce home n'avait point été fait à l'intention des hommes, mais pour Azaghal, seigneur de Belégost, qui fut tué par Glaurung l'année de la Lamentation. Il fut donné à Maedros par Azaghal pour prix de la vie et des trésors qu'il lui avait sauvés lorsqu'Azaghal fut pris dans une embuscade d'orques sur la route des nains en Beleriand de l'Est. Par la suite, Maedros l'envoya en présent à Fingon, avec qui il échangeait bien souvent des témoignages d'amitié, se souvenant comment Fingon avait refoulé Glaurung vers Angband. Mais dans tout le Ithlom, on ne trouva ni tête ni épaule assez solide pour porter le home des nains avec aisance, sauf celle de Hador et de son fils Galdor. Aussi Fingon en fit-il don à Hador lorsqu'il reçut la gouvernance du Dorlomin. La malchance voulut que Galdor ne le portât pas lorsqu'il défendit Eithel Sirion, car l'assaut avait été soudain, et il avait couru au rempart tête nue et une flèche d'orque lui avait crevé l'œil. Mais Hurin ne portait pas le home du dragon avec aisance et de toute manière dédaignait de s'en coiffer, disant « Je préfère contempler mes ennemis à visage découvert. » Il n'en tenait pas moins le home pour le bien le plus précieux de sa maison. Or, Thingol possédait à Menegroth d'immenses armureries où étaient entreposées quantités d'armements. Des cottes de métal travaillées comme des écailles de poisson et brillantes comme l'eau sous la lune, des épées et des haches, des boucliers et des haumes fabriqués par Telkar lui-même ou par son maître Gamil Zirak l'Ancien ou bien par les elfes forgerons plus habiles encore. Car Thingol s'était vu offrir des pièces venant du Valinor, conçues de la main de Fëanor au sommet de son art, lui qu'aucun forgeron n'égala jamais depuis que le monde est monde. Et pourtant Thingol prit dans ses mains le home de Hador comme si ses propres trésors n'étaient rien. et il en parla en termes courtois, disant « Fière fut la tête qui porta ce aume que les pères de Hourin ont porté. » Puis lui vint une idée, et il fit appeler Turin, et lui dit que Morwen avait envoyé à son fils un noble objet, l'héritage de ses ancêtres. « Prends à présent la tête du dragon du Nord, » dit-il, « et lorsque le temps viendra, porte-la à bon escient. » Mais Turin était encore bien trop jeune pour soulever le aume, et il n'y prêta guère attention en raison du chagrin qu'il avait au cœur.